Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous emmène sur Chambéry, lors de l'événement national organisé par le NEC, le numérique en commun. Dans cette nouvelle édition, quatre thèmes majeurs pour défendre un numérique d'intérêt général étaient abordés autour d'ateliers, de tables rondes et de conférences. Données et territoires, écologie et soutenabilité, inclusion et émancipation, commun et souveraineté. Alors dans cet épisode, nous vous proposons une balade de stand en stand à la rencontre d'une toute petite poignée d'actrices et d'acteurs présents ce jour-là. Bonne écoute.
Alors moi je m'appelle François Huguet, je suis sociologue et je suis co-responsable avec Yaël Benayoun de la revue Numérique en commun. Alors on est à Chambéry pour Numérique en commun national, l'édition nationale. Il y a quelques années, on aurait appelé ça les Assises nationales de la médiation numérique. Là, il y a cette marque, ce label NEC qui est né et qui permet de regrouper tous les acteurs de la médiation numérique, c'est-à-dire les bibliothécaires, les agents publics, les associations qui travaillent toutes pour lutter contre les non-usages du numérique ou alors les difficultés que les citoyens français ont avec le numérique. Alors nous, on fabrique une revue qui s'appelle la revue Numérique en commun et qui se propose de suivre tous les événements labellisés NEC qui se déroulent partout en France. Là, c'est l'édition nationale, mais en fait, tout au long de l'année, il y a des NEC locaux, des événements locaux, où l'idée, c'est de faire, pas des assises nationales, mais des assises territoriales de la médiation numérique. Donc encore une fois, sur un territoire, rassembler les bibliothécaires, les associations, les secrétaires de mairie, les acteurs qui s'occupent de ces problématiques d'inclusion numérique. Et nous, on fait un suivi de ces événements-là, NEC locaux. Et suite à ce suivi, tous les 4 mois, on édite une revue gratuite, en libre accès, qui est sous licence ouverte. Et on essaye d'explorer des thématiques qui apparaissent dans ces événements locaux. La question de l'empreinte écologique du numérique, les liens entre inclusion numérique et santé, lutte contre l'illettrisme et lutte contre l'illectronisme. Et là, la dernière, c'est en fait les enjeux communs entre le numérique d'intérêt général et les jeux vidéo. On rend compte de ce qu'on entend sur les NEC locaux, sur les événements locaux. On essaye de discuter, d'interviewer les personnes comme tu es en train de le faire et qui, sur le terrain, se mobilisent contre les fractures numériques au pluriel. Et on rend compte de ça dans cette revue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement du numérique d'intérêt général. Ce numérique qui est ouvert, qui est inclusif, qui est plus durable, qui va à rebours en fait, du numérique qu'on nous vend aujourd'hui, qui va à rebours de ce numérique qu'on subit. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le numérique qu'on veut. Donc on essaye d'être la revue du numérique que l'on veut plutôt que du numérique que l'on subit. Et pour ça, on interviewe des personnes qui se mobilisent, des experts qui se mobilisent aussi sur ce numérique que nous voulons plutôt que ce numérique que nous subissons. Et là, on en est à un point où on se dit « Ah, il ne faut pas être en retard sur les effets de l'intelligence artificielle générative. » On s'est dit la même chose il y a quelques années avec les réseaux sociaux. On s'était dit la même chose en 2000 avec Internet quand il arrivait en très bas débit, etc. Je crois qu'il faut arrêter vraiment avec cette rhétorique du retard. On ne rattrapera jamais quelque chose. En revanche, il faut essayer de construire un numérique et on peut le faire avec de l'intelligence artificielle générative, il n'y a pas de problème. Il faut arriver à construire un numérique qui se met au service du bien commun. Et moi, l'intelligence artificielle ne m'intéresse qu'à cette condition-là. C'est-à-dire quand on sort du récit et de la légende autour de la techno, du techno-push et de l'innovation, de rupture, etc. Moi, ça m'intéresse assez peu parce que quand on regarde qui fabrique ces mythologies, on sait que c'est toujours les mêmes personnes, c'est des hommes blancs d'Alice Silicon Valley qui sont valides, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont présents, par exemple, aujourd'hui et qui se battent pour que on sorte de la rhétorique du retard parce qu'on ne rattrapera jamais le retard. En revanche, ce qu'il nous faut fabriquer, ce n'est pas essayer de rattraper des choses, c'est se dire comment on crée vraiment ce que je te disais juste avant, comment on crée un numérique que l'on veut plutôt qu'un numérique que l'on subit. En parallèle de ce que je te dis, il faut arriver à créer de l'intéressement sur cette question de la culture numérique. Il faut développer la culture numérique chez les personnes. Une culture numérique critique. Il faut comprendre comment fonctionnent les IA, il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes, non pas en devenant tous des codeuses ou des codeurs, hein, Mais il faut comprendre quels sont les enjeux écologiques, politiques, sociaux, culturels de tous ces trucs-là. Il faut se créer une culture numérique au sens vraiment culture générale sur ces enjeux-là. J'écoutais Damasio il n'y a pas si longtemps qui a sorti un bouquin sur ces questions-là. Il est allé enquêter dans la Silicon Valley et il dit il faut qu'effectivement aujourd'hui tous les élèves au collège, au lycée aient des cours de culture numérique. Non pas apprendre la manipulation de tous ces outils-là, mais comprendre leurs enjeux. Ça va de pair avec construire un numérique d'intérêt général, un numérique que, ce que je répète tout le temps, le numérique que l'on veut, ben il faut avoir une culture générale, tu as raison, sur les enjeux de ces trucs-là, quoi. Et l'IA en fait partie, il faut comprendre comment ça fonctionne, quelles solutions elle propose, quels problèmes elle nous pose pour savoir si c'est bien ou pas.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur la revue Numérique en commun, rendez-vous dans la partie ressources du site numérique-6-en-6-commun-avec-un-s.fr. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route pendant les rencontres du NEC. Retour aux entretiens.
Bonjour, je m'appelle Déborah Daubert, je travaille au sein du groupement d'intérêt public PIX en tant que responsable du département inclusion et territoire. PIX, c'est une plateforme en ligne qui permet à tout un chacun de tester, développer et certifier ses compétences numériques. Initialement, c'est un besoin qui a été porté et identifié au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais aujourd'hui, PIX est un groupement d'intérêt public et une plateforme donc, qui est utilisée par à peu près tout le monde. On compte aujourd'hui 6 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme, donc ça représente quand même 10% de la population française, et donc on est utilisé par des collégiens, des lycéens, des étudiants, des professionnels, des gens qui sont dans des parcours d'insertion professionnelle, etc.
Est-ce que tu peux nous expliquer alors un petit peu plus concrètement ce qu'on trouve sur votre plateforme et ce que vous proposez?
Concrètement, vous allez sur pix.fr et on va vous proposer des questions. Des questions vraiment pratiques où on va vous tester sur différents sujets que vous connaissez déjà. De la recherche en ligne, du mail, savoir ce qu'est un mot de passe sécurisé, reconnaître ce qu'est un clavier, une souris. Donc des choses vraiment de la vie quotidienne, du numérique, où on va venir vous tester donc, par le biais de questions qui sont ludiques. Et en fonction de vos réponses, ça va soit devenir de plus en plus difficile pour aller un petit peu vous chatouiller et vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Ou à l'inverse, si vous êtes plutôt débutant, bah, c'est pas grave. Là aussi, vous allez avoir des questions adaptées à votre niveau et vous allez pouvoir apprendre pas à pas grâce à la plateforme. L'intelligence artificielle sur la plateforme, ça fait déjà quelques mois, quelques années qu'on a des questions sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup. Donc, on a aussi plus de contenu maintenant sur la plateforme pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, puisque c'est une des premières briques, et s'approprier le monde de l'intelligence artificielle, mais par la pratique. On essaie de capter vraiment des choses très concrètes, comme comprendre c'est quoi un algorithme, c'est quoi un prompt, enfin, tout ce vocabulaire qui paraît un peu technique, un peu éloigné, essayer de le concrétiser et de le rendre accessible pour permettre de s'approprier ce mot un peu barbare d'intelligence artificielle et qui peut paraître un peu loin de nous. Je disais PIX, c'est pour tout le monde et c'est aussi pour les parents, puisque PIX est aujourd'hui majoritairement connu pour être utilisé par les enfants au collège et au lycée. Mais en fait, les compétences numériques, elles doivent être aussi maîtrisées par les parents. Donc, on a créé des questions dédiées à ce qu'on appelle la parentalité numérique. Donc, autrement dit, tous les enjeux du numérique en famille ou du numérique en lien avec l'école. Et donc, on lance aujourd'hui des nouveaux contenus autour de ce qu'on appelle donc la parentalité numérique.
Gros dossier.
Gros dossier.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. On se balade de stand en stand à la rencontre d'actrices et d'acteurs du territoire qui proposent toutes et tous un numérique plus solidaire, inclusif, soutenable et surtout en commun. Retour aux entretiens.
Donc moi je suis Delphine Salvi et je suis la coordinatrice d'inclusion numérique régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA pour la Croix-Rouge.
Et Romain Bussière, je suis l'homologue de Delphine pour la région Hauts-de-France.
Et sur notre stand, donc le stand de la Croix-Rouge, on est venu expliquer ce que l'on faisait dans le cadre de nos activités qui ont attrait à l'inclusion numérique. Sachant que ça fait déjà à peu près 4-5 ans qu'on est sur ce créneau-là au travers d'un programme qui s'appelle Territoire zéro exclusion numérique. Et donc on va expliquer ce qu'on fait au travers de ce programme-là et avec quel type de public on travaille et comment est-ce qu'on intervient au quotidien avec nos conseillers numériques sur les différents territoires qu'on couvre.
Le programme Territoire zéro exclusion numérique a commencé là il y a à peu près un an, si je ne fais pas de bêtises. Et avant, c'était un programme qui s'appelait Déclic, donc l'offre a quand même évolué petit à petit pour se rapprocher de plus en plus des territoires en fait et utiliser le maillage Croix-Rouge afin d'aller au plus proche des publics et de pouvoir les assister le mieux possible.
Alors, ce qu'on propose au public, nous on est vraiment au sein du programme Territoire zéro exclusion numérique. On va intervenir sur la médiation numérique. Donc on va accompagner les personnes aussi à leur montée en compétences sur les compétences numériques de base. Et notre objectif final, c'est vraiment de les accompagner vers l'autonomie, d'avoir des personnes qu'on puisse accompagner sur 2, 3, 4, 5 séances et qui après puissent être autonomes sur certaines démarches administratives. Enfin, il y a plein de thématiques qu'on touche. Ça va être aussi la recherche de l'emploi, ça va être tout ce qui... ça va être aussi prendre soin de soi, la santé, etc. Donc tout ce qui implique d'utiliser du numérique et qui, pour l'instant, peut exclure certains publics, dont des publics qui sont déjà des publics vulnérables avec lesquels on travaille, donc les bénéficiaires aussi de la Croix-Rouge et différents publics qu'on aide sur d'autres activités au travers de l'aide alimentaire, des maraudes dans les établissements, pour les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de migration... qu'on accompagne sur d'autres volets. On va leur proposer aussi cet accompagnement au numérique et on va utiliser entre guillemets nos réseaux pour pouvoir être au plus près de ces personnes-là dans ce cadre-là.
C'est un accompagnement qui passe donc d'une part par des ateliers, effectivement, où on va accompagner les personnes à prendre en main le matériel, à prendre en main les sites administratifs, les différents services, etc. etc. Mais c'est aussi un accompagnement qui va passer par l'acquisition de matériel pour les personnes qui n'en ont pas. Donc on a aussi pour objectif là, d'équiper les personnes qui viennent dans nos unités locales ou qui sont bénéficiaires de nos établissements, notamment les personnes qui sont en grande précarité, pour qui il ne suffit pas de former les personnes à utiliser un numérique qu'elles n'ont pas à la maison, en fait, et auquel cas, la formation ne servirait pas à grand-chose, parce qu'on sait très bien que c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Donc, c'est aussi de permettre aux gens de venir et d'apprendre sur du matériel qui correspond, en général, le plus possible à du matériel qu'on peut, par ailleurs, leur donner ou leur proposer, au moins, en libre-service dans nos structures, afin qu'ils puissent eux-mêmes utiliser et gagner en autonomie par ce biais-là.
On est à peu près à 30 000 accompagnements depuis le début de la mise en place du programme. Mais en vrai, on ne se distingue pas par la quantité de personnes qu'on accompagne si on se compare à d'autres entités. Par contre, là où on va poser un accompagnement numérique Croix-Rouge, là où on va essayer de faire la différence, c'est sur le qualitatif. C'est sur le temps qu'on va passer avec la personne en fonction de son profil et par rapport à ses besoins. Et c'est là-dessus qu'on essaie vraiment d'avancer ensemble avec nos conseillers numériques. Donc on en a 26 qui sont répartis sur le territoire en France. Et on va vraiment essayer de prendre le temps d'accompagner ces personnes. On parlait d'accompagnement vers l'autonomie, ça prend du temps. Donc on n'est pas sur du one shot où je te résous ton problème. On est vraiment sur l'accompagnement avec une écoute, qui est l'écoute Croix-Rouge. Et on essaie de profiter de l'expérience de la Croix-Rouge dans d'autres domaines et de le ramener dans ce domaine-ci.
Oui, voilà, les personnes qu'on accompagne, bon alors, vous avez d'un côté les personnes qui sont en établissement, c'est les publics dits captifs, même si le mot n'est pas forcément super, mais bon, voilà, c'est le mot, et qui donc du coup sont là et donc du coup sont forcément beaucoup plus faciles à atteindre, donc on a cet avantage-là effectivement par rapport à d'autres entités. On a aussi du public qu'on reçoit en unité locale et qui du coup vient pour d'autres raisons, pour de la distribution alimentaire, pour des vestiboutiques. Et là, c'est peut-être un public qu'on a un petit peu plus de mal à atteindre par rapport au public en établissement. Les personnes qu'on accompagne, notamment en unité locale, du coup, qui viennent et qui du coup ne sont pas en établissement et qui derrière vont devoir faire des démarches administratives via Internet ou via des services numériques. En fait, ces personnes-là, ce qui leur manque dans la construction de leur résilience, en fait, c'est un humain. En fait, en face d'elle, et ça c'est quelque chose que la Croix-Rouge leur apporte en fait là où aujourd'hui si vous faites un dossier de CAF, c'est face à un ordinateur et l'ordinateur il est bête et méchant. Si on rentre pas dans la case que l'ordinateur a prévu, on peut pas faire son dossier et ça met des gens en très très grande détresse parce que c'est ne plus toucher le RSA, c'est ne plus toucher ses allocations. Donc là on a vraiment quelqu'un qui est là et qui peut adapter un petit peu la réponse intelligemment comme un humain sait le faire en fait. Et ça c'est vraiment très très important.
C'est pour nous, il s'agit quand même d'une crise qu'on identifie comme d'autres crises et que c'est aussi pour ça qu'on est là en tant que Croix-Rouge parce que l'ADN de la Croix-Rouge, c'est quand même d'intervenir avant, pendant et après les crises. Donc le fait d'identifier le tout numérique comme une possible crise qui va vulnérabiliser des publics qui sont déjà vulnérables, c'est aussi un peu le pourquoi on est là. On a parlé de la médiation numérique, de comment on accompagne vers l'autonomie les personnes qui en ont le plus besoin et qu'on s'ouvre aussi à d'autres sujets, notamment maintenant et à horizon 2030 par rapport aux autres défis qui sont des défis croisés. C'est vrai que j'en ai parlé au début, mais c'est les défis sociaux, cohésion sociale, tout ce qui concerne aussi la cyberattaque, tout ce qui concerne la crise environnementale, etc. On va croiser un petit peu toutes ces problématiques pour essayer de répondre mieux à la crise numérique.
Ok. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça ?
On y travaille, en tout cas. On réfléchit. Alors déjà, la première chose, c'est d'y réfléchir ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper au maximum. Si on arrive à anticiper au maximum, on va se donner les moyens pour la suite.
J'ajouterais que sur les sujets de sensibilisation, notamment aux impacts environnementaux, peut-être à l'avenir à l'utilisation de l'IA qui va probablement avoir une part importante dans les services publics d'ici les prochaines années. On a quand même à la Croix-Rouge un réseau qui est assez énorme puisqu'on est autour de 75 000 bénévoles, si je ne dis pas de bêtises, sur le territoire français. Donc si on veut diffuser un message de sensibilisation, si on veut toucher les gens, on est quand même assez bien placé pour le faire. On a un très bon maillage territorial et donc du coup on peut au moins s'appuyer sur cette ressource-là avec certitude. Et après, effectivement, c'est à nous de trouver les ressources pour continuer et aller encore plus loin par la suite.
Voilà, cet épisode est bientôt terminé, mais avant de se dire au revoir, nous avons tout de même le temps pour une dernière rencontre. Vous êtes donc toujours à l'écoute de Sur la route, et on vous en remercie. Nous sommes à Chambéry, aux rencontres 2024 du NEC, le numérique en commun. Retour à l'entretien.
Bonjour, Stéphane Canalis, je suis directeur territorial à Lyon de l'IGN, Institut National pour l'Information Géographique et Forestière. Et nous sommes basés à Lyon pour mettre à jour les données, les géodonnées et les données forestières sur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'IGN est présent effectivement à NEC, numérique en commun à Chambéry, avec un stand pour donner à voir comment le numérique est essentiel dans notre activité. On était passé déjà aux géodonnées, mais maintenant on parle de géonumérique, c'est-à-dire de science de la donnée qu'on va utiliser par l'intelligence artificielle, par des croisements de données face à la complexité des transitions auxquelles on fait face. Et aujourd'hui, l'IGN, non seulement vous le connaissiez, cartographe des territoires, il devient cartographe des politiques publiques, il cartographie l'anthropocène, il cartographie les grandes transformations, les forêts, les habitats naturels, la tension sur la ressource en eau, et tout ça, l'IGN le donne à voir. Et il y a clairement un apport du numérique par rapport à la complexité des phénomènes et par rapport au passage à l'échelle, c'est-à-dire de faire ceci au niveau de la France entière.
Ok, ok. Et alors, vous proposez quand même tout ça maintenant, si j'ai appris, au grand public. Et c'est quoi ce basculement ? C'est dans quel but ?
Alors, effectivement, les données IGN sont en open data, donc libres, accessibles parfaitement sur de nouveaux serveurs, une nouvelle infrastructure qui s'appelle la géoplateforme qui va héberger tout ça. Il y aura son pendant pour cartographier qui est déjà et qui va encore s'améliorer, carte.gouv.fr, qui va permettre à tout le monde de s'approprier ces données et ensuite de les mettre en forme ou de collaborer entre institutions, entre citoyens, entre une institution et des citoyens ou des grands témoins pour avancer et mettre en commun ces données et prendre les décisions ou donner à voir en tout cas.
Alors là, vous avez dit précédemment que vous utilisiez maintenant aussi les intelligences artificielles dans votre processus. C'est un gros sujet, les intelligences artificielles. Vous, précisément, c'est quoi l'apport des intelligences artificielles dans ce que vous proposez ?
Alors, par exemple, nous sommes impliqués à la demande de la DGALN, donc ministère de l'écologie, sur l'observation de l'occupation du sol. C'est-à-dire qu'on va regarder un territoire et on va classer le sol en fonction des usages, par exemple, qui en sont faits et de l'occupation. L'intelligence artificielle va permettre, par rapport à des photos aériennes, de trier un petit peu tout ça, la forêt, le bâti, la rivière, etc. Alors, ça peut sembler évident, ce qu'on est sur un territoire, c'est que oui, on sait où est la rivière, où est la forêt, mais pensons cela à l'échelle de la France entière. Mmh. Et il faut pouvoir rendre la copie très rapidement pour que tout le monde ait la même photo à peu près en même temps et qu'on ait la même photo 3 ans plus tard. Alors, photo, c'est photo traitée, classifiée et des données qu'on va pouvoir trier pour savoir, quelle est la trajectoire d'artificialisation qui a eu lieu pendant 3 ans et comment on fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'autres le diront, mais en tout cas, donner à voir, et on dit parfois, faire une carte, c'est se mettre à portée de baffe, c'est se mettre face à la réalité et à la confrontation avec le citoyen, le décideur et la politique publique en regard. J'aurais envie de rajouter un petit mot parce qu'on intervient un nec là-dessus sur les outils par rapport à l'accompagnement des transitions. Et on porte avec le CEREMA et l'INRIA aujourd'hui un beau projet de jumeaux numériques France entière, c'est-à-dire la France en 3 dimensions. Alors c'est très réducteur parce que c'est pas le casque de réalité virtuelle pour se balader en France. C'est disposer sur le territoire français d'un jumeau, d'une réplique, pour pouvoir travailler sur des simulations avec une multiplicité de facteurs et de complexités. Comment on croise des données INSEE, le réchauffement climatique, le recul du trait de côte, les glaciers, la forêt, le dépérissement. Alors, on n'est pas obligé de mettre tout ça dans le même cocktail, c'est peut-être abusé, mais en tout cas, de pouvoir aller vers de la simulation de cette complexité auquel on est tous aux prises.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux intervenantes et aux intervenants d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous reviendrons peut-être au NEC dans une prochaine émission. En tous les cas, on espère que celle-ci vous aura intéressé. Le numérique est un vaste sujet, il est important d'avoir du recul sur nos pratiques. Sur la route est une émission produite par l'association Résonance. Si vous voulez réécouter cet épisode ou découvrir les épisodes précédents, rendez-vous sur notre page Facebook ou YouTube. Vous pouvez également nous trouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, j'en passe et des meilleurs. Cherchez et trouvez-nous à Association Résonance, RESONANCE.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques.